Nous avons parlé souvent des trois sacrements de l'initiation, baptême, eucharistie, confirmation, ces sacrements par lesquels l'Esprit Saint nous connecte au Christ pour que la vie divine circule en nous. Cet Esprit Saint nous marque et nous nourrit pour que le Christ total grandisse et s'accomplisse en nous personnellement et dans la communauté. Nous avons aussi évoqué les deux sacrements de guérison, le sacrement du pardon qui vient guérir notre âme en la replongeant dans la grâce du baptême, et le sacrement des malades qui vient soutenir notre corps en nous unissant au Christ dans sa passion. Les deux autres, les deux derniers sacrements sont au service de la communion, c'est-à-dire que leur but est la sanctification des autres. Le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage contribuent bien sûr au salut personnel, mais toujours au travers du service des autres. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. Alors, nous avons déjà croisé plusieurs fois le sacrement de l'ordre en parlant de la hiérarchie dans l'Église. Ceux qui reçoivent ce sacrement sont consacrés pour être, au nom du Christ, les pasteurs de l'Église. Ils manifestent la présence agissante du Christ. Ils perpétuent sa mission d'enseigner, de gouverner l'Église et de la sanctifier par la célébration des sacrements. Nous en avons parlé en particulier lorsque nous avons évoqué le sujet du culte chrétien. Les ministres incarnent, pour ainsi dire, le Christ époux de l'Église, qui se donne à son épouse pour la sanctifier totalement. Cette image de l'union nuptiale est tellement forte et profonde qu'elle justifie depuis les origines le célibat des ministres dans notre Église latine. Alors ce soir, nous allons parler directement du mariage dans lequel se fonde cette image. Le mariage, c'est d'abord une réalité naturelle, inscrite dans l'ordre de la création. C'est l'alliance personnelle entre un homme et une femme qui constitue entre eux une communauté de toute la vie et qui a pour but le bien des conjoints et la génération et l'éducation des enfants. Cette réalité est présente d'une manière ou d'une autre à toutes les pages de la Bible. Elle révèle une dimension profonde du projet de Dieu qui est tout entier placé sous le signe de l'alliance. L'Écriture sainte s'ouvre sur la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu, et elle s'achève sur la vision des noces de l'agneau. D'un bout à l'autre, l'Écriture parle du mariage et de son mystère, de son institution, du sens que Dieu lui a donné, de son origine, de sa fin, de ses réalisations diverses tout au long de l'histoire du salut, de ses difficultés issues du mystère du péché et de son renouvellement dans le Seigneur, dans l'alliance nouvelle du Christ et de l'Église. La communauté profonde de vie et d'amour qui est formée par le couple a été fondée et est dotée de ses lois propres par le Créateur. C'est vraiment un donné de la création dès l'origine. Nous disons que Dieu lui-même est l'auteur du mariage. La vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme, tels qu'ils sont issus de la main du Créateur. Le mariage n'est pas une institution purement humaine, malgré les variations nombreuses qu'il a pu subir au cours des siècles et des millénaires, dans les différentes cultures, les différentes civilisations. Ces diversités ne doivent pas faire oublier ce qui est commun et permanent et fondamental. Dans toutes les cultures, d'ailleurs, il y a un certain sens pour la grandeur et l'importance de l'union du mariage. Le bien-être de la personne et de la société tout entière est étroitement lié à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Nous avons parlé plusieurs fois de la création. Dieu a créé l'homme par amour. Il l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain. Car l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est lui-même amour. Dieu ayant créé l'homme, homme et femme, bien leur amour mutuel devient une image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme. Il est bon, il est très bon aux yeux du Créateur, ce que Dieu dit dans la Genèse. Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l'œuvre commune de la garde de la création. Au commencement, Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » L'homme et la femme sont créés l'un pour l'autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme, chair de sa chair pour Adam, son égale, toute proche de lui, lui est donnée par Dieu comme un secours. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Cela signifie bien cette unité indéfectible de leurs deux vies. Le mariage a donc été inscrit dans la vie de l'homme dès la création. Mais comme toutes les réalités de ce monde, il va être malheureusement affecté par le mystère du péché. Le premier péché, rupture avec Dieu, il a aussi comme conséquence d'autres ruptures. En particulier cette rupture de la communion originelle de l'homme et de la femme. Leurs relations sont distordues. On le voit dans l'histoire d'Adam et d'Ève, il y a tout de suite une dissension entre eux, des griefs réciproques. Leur attrait mutuel, qui était un don du Créateur, bien, il se change en rapport de domination, en rapport de convoitise. La belle vocation de l'homme et de la femme d'être féconds, de se multiplier, de soumettre la terre, est grévée par des peines et des douleurs, les peines de l'enfantement pour la femme, la peine du gagne-pain, tu travailleras la terre à la sueur de ton front. Cette présence du péché, des difficultés qui pèsent au sein du couple, c'est une expérience universelle, je pense que tous vous pouvez en témoigner. L'union de l'homme et de la femme est toujours menacée par la discorde, l'esprit de domination, l'infidélité, la jalousie, et par des conflits qui peuvent aller jusqu'à la haine et la rupture. Pourtant, nous croyons que l'ordre de la création subsiste, même s'il est perturbé. Dans sa miséricorde, Dieu n'a pas abandonné l'homme à son péché. Les peines qui suivent le péché constituent aussi des remèdes qui limitent les méfaits du péché. Après la chute, le mariage aide à vaincre le repliement sur soi-même, à vaincre l'égoïsme, la quête du propre plaisir. Le mariage aide justement à s'ouvrir à l'autre, à l'aide mutuelle, au don de soi, qui sont des bonnes choses que le mariage permet de retrouver, de recultiver. Conséquence du péché, la polygamie apparaît et est longtemps tolérée dans l'Ancien Testament. Si nous lisons les textes, nous voyons des exemples qui nous étonnent un peu. La conscience, en fait, qui concernant l'unité du mariage et l'indissolubilité de deux vies qui s'unissent, eh bien, elle s'est développée progressivement au cours de l'histoire sainte. Elle s'était perdue et elle a dû revenir. Être redéveloppé. Les prophètes d'Israël ont beaucoup participé à cette prise de conscience en présentant l'alliance de Dieu avec Israël sous l'image justement d'un amour conjugal, un amour exclusif et fidèle. Dans la Bible, il y a des belles pages quand même sur le mariage, justement. Par exemple, le livre de Ruth, le livre de Tobie, qui donne des témoignages émouvants du sens élevé du mariage, du sens de la fidélité, de la tendresse des époux dans le mariage. En particulier, il y a le livre du Cantique des Cantiques, qui est tout entier un hymne à l'amour. La tradition a toujours vu dans ce livre une expression de l'amour humain en tant qu'il est reflet de l'amour de Dieu, reflet d'un amour fort comme la mort, que les torrents d'eau ne peuvent éteindre. Cette alliance nuptiale entre Dieu et son peuple Israël a préparé l'alliance définitive, l'alliance nouvelle, dans laquelle le Christ s'est uni à toute l'humanité, sauvée par lui. Alors, dès le début de sa vie publique, Jésus va donner ce signe du mariage en participant aux noces. Son premier miracle a lieu lors d'une fête de mariage à Cana. L'Église a toujours accordé une grande importance à ce signe, à cette présence de Jésus lors des noces. Nous y voyons vraiment la confirmation de la bonté du mariage et l'annonce que désormais le mariage sera un signe efficace de la présence du Christ. Dans sa prédication, Jésus a enseigné très clairement le sens originel de l'union de l'homme et de la femme, tel que le Créateur l'a voulu au commencement. Il explique même que la permission donnée par Moïse de répudier sa femme était une concession à la dureté de cœur. L'union de l'homme et de la femme est indissoluble. Dieu lui-même l'a conclu. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Cette insistance de Jésus, sans équivoque, sur l'indissolubilité du lien, elle a pu laisser perplexe et apparaître comme une exigence irréalisable. Pourtant, Jésus n'a pas chargé les époux d'un fardeau impossible à porter, d'un fardeau trop lourd. En venant rétablir l'ordre initial de la création, il donne aussi la force et la grâce pour vivre ce mariage dans une dimension nouvelle, dans l'esprit du règne de Dieu. C'est désormais en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leur croix, que les époux pourront comprendre le sens originel du mariage et ils pourront le vivre avec l'aide du Christ. Dans la foi chrétienne, nous disons que le Christ a élever le mariage à la dignité de sacrement. Les époux chrétiens sont fortifiés et d'une certaine manière consacrés par le sacrement du mariage pour devenir capables d'accomplir dignement les devoirs de leur état. Cette grâce du mariage chrétien est un fruit de la croix du Christ, source de toute la vie chrétienne. C'est ce que l'apôtre Paul veut expliquer en disant « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. » Et saint Paul ajoute aussitôt « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Le mariage chrétien devient un signe efficace, un sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Puisqu'il signifie et communique cette grâce, bien, ce mariage est vraiment un vrai sacrement comme les autres, justement. Il y a vraiment un don de la grâce sous un signe visible, concret. Alors, quelques mots sur la célébration du mariage. Vous en avez tous l'expérience. Revenons à ces éléments. Presque. Dans notre rite latin, la célébration du mariage entre deux fidèles catholiques a normalement lieu au cours de la messe, en raison justement du lien de tous les sacrements avec le mystère pascal du Christ. Dans l'Eucharistie se réalise le mémorial de la Nouvelle Alliance. Dans l'Eucharistie, le Christ s'unit à son Église, rend actuel son sacrifice. Il se donne à son épouse bien-aimée. C'est pour cela qu'il est tout à fait convenable que les époux scellent leur alliance, leur consentement en union avec ce sacrifice du Christ. Voilà, il convient tout à fait qu'ils s'unissent à l'offrande du Christ finalement pour son Église, qu'ils reçoivent aussi l'Eucharistie, afin que, en communion au même corps et au même sang du Christ, ils ne forment qu'un seul corps dans le Christ. C'est le Christ qui va souder cette unité. Ce sacrement du mariage, ce sont les époux qui en sont les ministres, l'un envers l'autre. Ils se confèrent mutuellement le sacrement du mariage en exprimant devant l'Église leur consentement. Alors, la liturgie du mariage est riche en prières de bénédiction, des prières d'épiclèse aussi qui appellent l'Esprit Saint sur le couple pour demander à Dieu justement la grâce et la bénédiction pour le couple. Les époux reçoivent l'Esprit Saint comme communion d'amour du Christ et de l'Église. C'est lui le sceau de leur alliance, la source toujours offerte de leur amour, la force où se renouvellera leur fidélité. Alors, qui peut vivre ce sacrement du mariage ? Alors, d'une manière générale, nous parlons justement des baptisés, ceux qui sont appelés à vivre les sacrements. Ce sont eux qui, normalement, un homme et une femme baptisés, qui sont libres de contracter un mariage et qui choisissent d'exprimer librement leur désir et leur engagement, leur consentement. L'Église considère vraiment cet échange des consentements entre les époux comme l'élément indispensable, l'élément qui fait le mariage. Le consentement, c'est cet acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. Je te prends comme ma femme, je te prends comme mon mari. Ce consentement qui lie les époux entre eux trouve son accomplissement en ce que les deux deviennent une seule chair. Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun, libre de violence ou de crainte externe. Il ne faut pas qu'il y ait de pression externe. Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement. Si cette liberté n'est pas entière, si cette liberté manque, il n'y a pas de mariage possible. Le mariage est invalide. Alors pour cette raison, l'Église peut parfois, après examen de certaines situations, déclarer la nullité de certains mariages, c'est-à-dire que certains mariages n'ont jamais existé. Et dans ce cas-là, ceux qui avaient soi-disant contracté mariage, en fait, ils sont libres. Il y a toujours un prêtre ou un diacre qui est présent pour attester de la célébration du sacrement. Il assiste à la célébration, ce n'est pas lui, comme dit, qui donne le sacrement. Il accueille le consentement des époux au nom de l'Église et il donne la bénédiction de l'Église. Cette présence du ministre de l'Église et aussi la présence des témoins exprime visiblement que le mariage est une réalité qui concerne la vie de l'Église. Ce n'est pas juste, ça ne concerne pas juste les deux personnes. Alors ce sacrement peut être vécu par un fidèle même si le partenaire n'est pas baptisé ou s'il est baptisé dans une autre confession chrétienne. Il y a beaucoup de mariages mixtes, comme on les appelle. Nous connaissons ça très bien en Alsace, il y a une forte minorité protestante. Alors la différence de confession entre chrétiens, quand il y a une différence entre conjoints, cela ne constitue pas forcément un obstacle insurmontable pour le mariage. Lorsque les deux parviennent à mettre en commun ce que chacun d'eux a reçu dans sa communauté et à apprendre l'un de l'autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. Mais il y a forcément des difficultés qui ne doivent pas être non plus sous-estimées. Les époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur famille, au sein de leur foyer. Une différence de religion au sein du couple peut encore aggraver ces difficultés. Des divergences concernant la foi, la conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes peuvent constituer des sources de tensions dans le mariage. et aussi à propos de l'éducation des enfants, bien sûr. Il y a alors une tentation qui peut se présenter, c'est l'indifférence religieuse. Alors, d'après le droit de l'Église, un mariage mixte, donc, où les deux ne sont pas baptisés dans l'Église, un tel mariage a toujours besoin de la permission expresse de l'évêque. Cette permission suppose que les deux parties connaissent et n'excluent pas justement les propriétés essentielles du mariage sur laquelle il faut s'entendre. Cela suppose aussi que la partie catholique confirme son engagement à garder la foi, à la cultiver et d'assurer le baptême et l'éducation des enfants dans cette foi de l'Église. Dans les mariages où il y a une différence de religion, l'époux catholique a une tâche particulière que saint Paul soulignait déjà. Saint Paul disait dans la première lettre aux Corinthiens, « Le mari non-croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant. » C'est une grande joie pour le conjoint chrétien et pour l'Église si cette sanctification conduit à la conversion libre de l'autre conjoint, évidemment, à la foi chrétienne. L'amour conjugal sincère, la pratique humble et patiente des vertus familiales et la prière persévérante, surtout, peuvent préparer le conjoint non-croyant, à accueillir cette grâce de la conversion. Alors, quels sont les effets du sacrement de mariage ? Alors, le mariage, il y a d'abord cette réalité naturelle qui existe toujours, ce lien qui est par nature perpétuel et exclusif. Et en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par ce sacrement pour vivre justement à la hauteur des défis de cette vocation. Ce lien, le lien matrimonial, est scellé par Dieu lui-même. L'alliance des époux est comme intégrée dans l'alliance de Dieu avec les hommes. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin. Donc le lien matrimonial est donc établi par Dieu lui-même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous ou remis en question. Ce lien qui résulte du choix des époux et de la consommation du mariage, eh bien, il devient une réalité tout à fait irrévocable. Et il donne origine à une alliance qui est vraiment garantie par la fidélité de Dieu. Dans leur état de vie des époux mariés, les chrétiens ont dans leur peuple de Dieu des dons propres qu'ils reçoivent au travers de ce sacrement. Cette grâce propre du sacrement est destinée à perfectionner leur amour, à fortifier leur unité. Par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, aussi dans l'accueil et l'éducation des enfants. Cette grâce se déploie tout au long de leur vie, dans la mesure où ils cultivent leur union au Christ. Ce sacrement du mariage, il y a donc une grâce qui est quotidienne, qui doit être développée et cultivée, qui va même grandir avec le temps. C'est le Christ qui est la source de cette grâce. Il habite avec les époux chrétiens. Il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur eux. Il leur donne la force de se relever après les chutes, de se pardonner mutuellement, de porter les fardeaux les uns des autres, d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, de s'aimer surtout d'un amour pas seulement naturel mais surnaturel qui prend son origine en Dieu, un amour délicat et profond, un amour fécond. Dans les joies de leur amour et de leur vie familiale, il leur donne dès ici-bas un avant-goût du festin des noces de l'agneau. L'amour conjugal comporte une totalité où entrent toutes les composantes de la personne. Appel du corps et de l'instinct, force du sentiment, de l'affectivité, aspiration de l'esprit et de la volonté, sont vraiment toutes les dimensions de la personne qui sont concernées, impliquées. Cet amour vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de l'union en une seule chair, conduit à ne faire qu'un seul cœur et une seule âme. Cette totalité exige nécessairement, justement, la fidélité et l'indissolubilité dans un don réciproque définitif, et il s'ouvre sur la fécondité. Alors, bien sûr, ce sont les caractéristiques de tout amour humain, d'abord, mais avec une signification nouvelle qui non seulement les purifie et les consolide, mais les élève au point d'en faire l'expression de valeurs proprement chrétiennes. L'amour des époux exige, par sa nature, l'unité et l'indissolubilité, on l'a déjà dit plusieurs fois, l'unité de cette communauté de personnes qui englobe vraiment toute la vie. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ils sont appelés à grandir sans cesse dans leur communion, à travers la fidélité quotidienne à la promesse du don mutuel total que comporte le mariage. Cette communion humaine est confirmée, purifiée et parachevée par la communion en Jésus donnée par le sacrement de mariage. Une communion qui s'approfondit aussi dans la communion eucharistique quand elle peut être reçue en commun. L'amour conjugal exige des époux une fidélité inviolable. Alors, le motif de cette fidélité pour nous, chrétiens, et elle se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, la fidélité du Christ à son Église. Par le sacrement de mariage, les époux sont habilités à vivre, à représenter cette fidélité et en témoigner. Par le sacrement, l'indissolubilité du mariage reçoit un sens nouveau et plus profond. Il peut paraître difficile, surtout à notre époque, de se lier pour la vie à un être humain. C'est une question qui se pose souvent autour de nous. Mais il est d'autant plus important d'annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime d'un amour définitif et irrévocable, d'annoncer que les époux ont vraiment part à cet amour, que cet amour les porte et les soutient, que par leur fidélité, ils peuvent être les témoins de l'amour fidèle de Dieu. Il existe cependant des situations où la cohabitation devient pratiquement impossible pour des raisons très diverses. Parfois ça arrive malgré parfois la bonne volonté des uns ou des autres. Et dans de tels cas que saint Paul envisage déjà dans ses lettres, c'est pas nouveau dans la vie de l'Église, bien l'Église admet la séparation physique des époux, la fin finalement de leur cohabitation. Mais ils ne cessent pas pour autant d'être mari et femme devant Dieu. Ils ne sont pas libres de contracter une nouvelle union. Dans cette situation qui est difficile, la meilleure solution, quand c'est possible, c'est bien sûr la réconciliation. La communauté chrétienne est appelée à aider ces personnes à vivre chrétiennement leur situation, dans la fidélité au lien de leur mariage, qui reste indissoluble. Alors il y a aujourd'hui, de nombreuses personnes qui ont recours au divorce selon les lois civiles qui le permettent et qui par la suite contractent civilement une nouvelle union. Alors, l'Église maintient toujours sa fidélité à la parole de Jésus-Christ, même si c'est dur à entendre parfois. L'Église veut rester fidèle à cette lumière du Christ. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. L'Église ne peut donc jamais reconnaître comme valide une nouvelle union si le premier mariage était un vrai mariage, était valide. Voilà, tout cela pour attester que l'indissolubilité et la fidélité sont vraiment des exigences essentielles et qui tranchent par rapport à la mentalité du monde qui nous entoure. Dans la nature même du mariage, dans la nature de cette union conjugale, il y a aussi la dimension, bien sûr, de procréation et de l'éducation, l'accueil des enfants, qui constitue comme un couronnement de cette vie du couple. Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Dieu a voulu donner au couple une participation spéciale dans son œuvre créatrice. Dès lors, un amour conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie familiale qui découle, tendent à rendre les époux disponibles pour coopérer à cet amour créateur de Dieu qui veut s'exprimer, qui veut sans cesse agrandir et enrichir sa famille. La fécondité de l'amour des époux s'étend aussi bien aux fruits de la vie spirituelle, la vie morale qu'ils vont transmettre aux enfants. Ce n'est pas juste la vie biologique, les valeurs que les parents vont transmettre par l'éducation. Les parents sont les principaux et les premiers éducateurs de leurs enfants, les premiers catéchistes aussi. En ce sens, la tâche fondamentale du mariage et de la famille est d'être au service de la vie. Le Christ lui-même a voulu naître et grandir au sein d'une famille, la sainte famille de Joseph et de Marie. L'Église, c'est finalement la famille de Dieu, cette famille de Jésus élargie. Dès ses origines, le noyau de l'Église était souvent constitué par ceux qui étaient devenus croyants avec toute leur maison, c'est-à-dire avec toute leur famille. Lorsqu'ils se convertissaient, ils désiraient que toute leur famille, toute leur maison soit sauvée. Ces familles devenues croyantes étaient des îlots de vie chrétienne dans un monde incroyant. De nos jours, dans ce monde qui est redevenu incroyant, qui est redevenu païen, qui est même hostile à la foi, bien les familles croyantes sont de première importance, comme foyer de foi vivante et rayonnante. Le foyer est cette première école de la vie chrétienne, une école d'enrichissement humain et spirituel. C'est dans le foyer qu'on apprend l'endurance et la joie du travail, de l'amour, le pardon. C'est là qu'on apprend aussi la prière, le culte divin. C'est là qu'on apprend à offrir sa vie, à se donner. Le foyer familial est la première cellule d'église où l'on vit la foi. Alors dans notre monde qui est très perturbé et perturbant même pour tout ce qui concerne les relations humaines, dans ce monde où on veut parfois utiliser le mot de mariage à toutes les sauces, bien il est important d'affirmer la grandeur et la dignité du mariage tel que Dieu l'a institué et tel que Dieu le propose aux croyants. D'une certaine manière, c'est le premier sacrement. En tout cas, c'est le seul sacrement qui a été institué dans le monde originel. En ça, il était vraiment premier. Il reste premier. Toute la grâce que Dieu avait confiée à Adam et Ève devait se déployer au travers de ce sacrement de mariage, dans la vie de leur famille et dans toute la communauté humaine. La rupture du péché a tout bouleversé, mais le projet est toujours le même. La grâce se déploie désormais en 7 sacrements, parmi lesquels le mariage a toujours sa place fondamentale. Il témoigne de cet autre mariage pour lequel nous sommes tous créés, les noces de Dieu avec l'humanité en Jésus.